femme, le ballon. Pas d'elle qui se tait, encore moins d'elle qui, de surcroît, en vertu d'une morale précaire, leur laisse volontiers tous les droits. Dans l'ombre, quand la violence tient bien son rang. Parlez-moi, une île déserte. Parlez-moi, une île déserte. Presque oublié le nom de ces violeurs dont la minuscule se tient dans le fond de leur pantalon. Avec les faudrailles et la cœur, retourne coucher dans son décor quand le réel reprend ses droits.
C'était Lucide Beausonge, un rêve, chanson à un rêveur, pardon. Et vous êtes toujours sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Vous vous souvenez peut-être qu'en avril dernier, Radio Zone et Remue Ménage avaient fait une prouesse technique fantastique en se rendant en direct à Recife avec Gigi, représentante du SOS Corpo, ce groupe féministe qui travaille à Recife. Eh bien, cette fois-ci, plus besoin de magie technique, puisque Gigi est venue passer un mois en Suisse, retrouver un petit peu ses origines, et nous est arrivée tout directement dans le studio de Radio Zone.
Oui, avec plaisir. Je passe deux mois très agréables dans l'été européen, et vraiment, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de voir toutes ces différences, de retrouver ses racines aussi, quelquefois. Mais je pars bientôt et je reprends mon histoire là-bas.
Alors on profite vite de te capter sur nos ondes avant que tu repartes effectivement. Alors peut-être depuis notre dernière rencontre en avril passé à Olinda, tu pourrais nous raconter un peu ce qui s'est passé, parce que je crois que malheureusement les choses vont pas toujours dans le très bon sens en ce moment au Brésil. Les choses ont tendance plutôt à s'aggraver, non?
Oui, alors tout à fait. On est très 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 pessimiste. Je me rappelle qu'il y a deux ans, donc j'étais venue faire une émission ici, et puis que j'étais quand même pleine de fougue et beaucoup. Je crois que c'était un reste d'idéalisme. Et maintenant, je dois dire qu'on voit ça avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de retenue. Hein. Ça, c'est le pechi, comme on dit. C'est vraiment, on a l'impression, et c'est assez évident pour tout le monde, pour tous ceux qui ont fait des efforts dans le sens de l'ouverture et de la démocratisation. La classe politique a trahi, la corruption mais s'étale honteusement partout. On y est presque obligé tout le temps au quotidien, je veux dire, pour ne pas payer l'amende, on graisse la patte aux fonctionnaires, pour t'installer un téléphone plus vite, c'est la même chose, enfin ce genre de truc. Il y a plus de lois, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et puis c'est dur. C'est dur, il faut qu'on révise un peu nos stratégies et que l'on essaye de se renforcer, hein, pour pouvoir supporter ce qui se passe. Parce que, bon, politiquement, c'est le blocage. La Constitution qui devait nous apporter des réformes économiques et sociales, après un bel essor très chaud brésilien dans le sens du libéralisme, en fait, au moment où les grandes décisions doivent être prises, le président du pays achète tout le monde et ça retombe toujours comme ça a été auparavant. Alors voilà, on
en
a
plus,
ça.
Sur le quotidien, j'imagine, il y a aussi le poids de la vie économique qui est de plus en plus dure.
Ah oui.
Donc, si on a eu un quelconque espoir que les prix, tout allait être stabilisé, tout à coup, ça
ah
remonte.
Oui, tout à fait. On a eu une envolée de nouveau de l'inflation qui est, semble-t-il, tout aussi exubérante que la vie politique, c'est-à-dire... C'est épouvantable. Ça change tous les jours. Les prix changent tous les jours au supermarché. L'inflation est à, je crois, 300%. Et quand je dis 300%, c'est sûrement demain, elle sera à 310, etc.
Tu me disais qu'entre autres, tu t'attends, en rentrant chez toi, à avoir ton loyer augmenté de 3 fois par rapport à ce qu'il était avant.
Ah oui,
exemple.
Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait légal. Hein? Seulement, nos salaires, ils ne s'augmentent pas aussi rapidement. Donc, toujours une perte de pouvoir d'achat assez phénoménale qui fait une insatisfaction et on ne sait pas de quel côté cette insatisfaction va tomber. Hein?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens, qu'est-ce que vont en faire les gens? Est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce que,
voilà.
Parce qu'on se demande, effectivement, on a vu sortir dans la rue des millions de personnes pour réclamer des élections directes. Est-ce que ces millions de personnes vont se remobiliser par rapport à leur vie quotidienne?
Oui, alors non. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de mobilisation. Et c'est une grande déception, je veux dire. Mais ça, c'est aussi... C'est là où je dis la classe politique a trahi, je veux dire. En 85, il y avait des gens dans la rue, il y avait des millions de gens dans la rue qui demandaient les élections directes. Et puis, ces élections directes, on ne les a pas eues, parce qu'il y a eu donc des concessions au niveau politique pour calmer l'extrême droite, qui est quand même toujours très puissante, il faut le dire. Alors, on a eu un président qui a été élu. Ce président est mort presque le lendemain de son investiture. Et puis le vice, qui est un type de la droite, qui a toujours été de la droite, qui a pris le pouvoir. Et c'est le président Sarney qui est toujours au pouvoir maintenant et qui ne lâchera pas le pouvoir. Et malgré tous les efforts, niveau institutionnel... c'est un resserrement très très grand. Tous les efforts qu'on a pu faire maintenant ont été éliminés. Ça se resserre, ça démolit tout ce qu'on a pu faire. Ça, c'est très 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 décevant. Et puis les gens ne savent plus comment réagir. Parce que les élections directes, c'est comme une vieille chanson. Et puis on sait qu'au bout, on a l'impression que de toute façon, ça va être saboté à un moment donné. Alors, il y a plus pour le moment, plus rien du tout. Il va y avoir des élections là maintenant et on va voir ce qui va se passer. Mais on est très, très, très... on a un certain recul et une envie de trouver d'autres moyens. En tout cas, moi, c'est mon envie.
Le SOS Corpo, donc le groupe de femmes dans lequel tu travailles à Recife, lui s'était engagé d'ailleurs forcément en tant que groupe dans tout le mouvement politique et il avait soutenu par exemple l'élection d'un gouverneur d'un parti politique censé être de gauche, le PMDB à Recife. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il a, ce personnage, a réussi à tenir les promesses qu'il vous avait tenues lorsque vous lui aviez accordé votre soutien à l'égard des femmes par exemple?
Non, de nouveau... Je veux dire, il y a eu une campagne, on savait, Monsieur Arraes, le docteur Arraes, comme on dit, qui est un colonel de l'intérieur, mais enfin un vieux démocrate, hein, qui a été réfugié, exilé pendant longtemps en Europe. il a pris le pouvoir, on savait très bien qu'il allait devoir faire des tas de concessions pour se maintenir au pouvoir, pour être élu déjà, hein, puisque il y avait un grand enjeu, c'était d'avoir l'intérieur du pays qui est toujours très acheté, puisque très à la solde des latifondistes, enfin de toute l'oligarchie. Eh bien, il a dû faire des tas de concessions qui ont fait que c'est clair qu'il est assez les mains, il a assez les mains liées. Mais on a pu, en tout cas, essayer d'avoir des contacts avec des institutions donc d'État, type les ministères de santé et d'éducation, avec une certaine ébauche de travail qui s'est faite. Mais avec toujours des blocages institutionnels à haut niveau. Ce qui nous a été, d'ailleurs, on a été obligés à un moment donné d'aller voir le gouverneur, donc le docteur Arraes, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas tenu des promesses que vous avez faites aux femmes, qui d'ailleurs a fait une manifestation spéciale pour qu'il soit élu, pour le soutenir. Hein. Et ça a été assez amusant ou assez étonnant d'ailleurs, puisque le docteur Arraes a tout de suite téléphoné par exemple à son ministre de la Santé en disant « mais vous n'avez pas répondu à la lettre que les femmes vous avaient adressée, s'il vous plaît, je vous demande d'être plus ouvert et de marquer une audience ». Et ça a été tout de suite fait. Alors on peut se demander en effet jusqu'où ça ira, parce que c'est clair que il y a des décisions à niveau politique qui doivent être prises, tout en sachant que les structures elles-mêmes, hein, les structures de santé sont assez bloquées, assez immobilisées. Hein. Donc il y a plusieurs problèmes. Ce n'est pas seulement la décision politique à haut niveau, mais c'est aussi la décision politique. Alors on essaye comme ça, par tous les niveaux, à avancer. On avance, et puis d'un autre côté, si on lève les yeux un peu autour de nous et au niveau national, on se dit que c'est vraiment dur.
Oui, c'est vraiment dur. On essaye d'avancer, disait Gigi. Peut-être que maintenant les gens sont trop écrasés pour réagir, mais on peut espérer que les Brésiliens se relèveront et réentonneront les chants qui les ont menés autrefois dans la rue, telle cette chanson de Geraldo Vandré qui était chantée dans les années 68-70 au plein cœur de la répression.
A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não.
bien, allons-nous-en, parce que qu'attendre n'est pas une solution. Celui qui sait fait que l'heure qu'on n'attend pas arrive. Les soldats dans les casernes, on leur enseigne des mensonges, mourir pour la patrie et vivre sans raison. Nous, dans les écoles et dans la rue, nous sommes des soldats, armés ou non, nous marchons et nous chantons en suivant la chanson. Avec la certitude devant nous, l'histoire dans la main, on apprend en silence une nouvelle chanson. Telles étaient les paroles de cette chanson de Geraldo Vandré. Alors, dans toutes les difficultés actuelles, 1988, politiques, institutionnelles et économiques que nous a décrit Gigi tout à l'heure, est-il encore possible pour le SOS Corpo de travailler, d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés?
Oui, alors tout à fait. On fait beaucoup de choses. Alors, si par exemple ça se bloque à un niveau, par exemple le niveau institutionnel où on avait quand même beaucoup investi, hein, dans les sensibilisations de médecins, d'infirmières.
C'est ce que tu nous racontais donc oui. En avril passé. Alors là, par rapport à ça, il y a des fois quand ça marche plus là.
Ben oui, alors on se dit il faut donner un temps, comme on dit, hein. Et puis, mais en même temps, il y a d'autres plans de travail qui nous appellent. Je veux dire, on a tout notre matériel éducatif à faire, hein, nos vidéos. On a aussi organisations. On a eu un énorme travail, alors qui est justement pas du tout institutionnel, qui était tout à fait autonome. C'était l'organisation de la rencontre des femmes, de la rencontre féministe nationale, qui a été un grand, grand travail et très, très gratifiant, qui nous a amené 800 femmes au Pernambouc, c'est-à-dire dans mon État.
Donc 800 femmes représentantes de tous les groupes actifs féministes, voilà, au Brésil.
Voilà, exactement. Hein, que ce soit des groupes, il y avait une représentation très populaire, puisqu'il y avait 70% des participantes qui venaient des classes défavorisées, et le 30% qui venaient des classes moyennes, des professionnels, etc. Hein? Bon, je pourrais peut-être en reparler plus tard, mais je veux dire, on avait ce genre de travail là. On a aussi nos enquêtes, hein?
Toi, par exemple, tu as travaillé pendant longtemps, mmh, sur une enquête sur le diaphragme, donc la, oui, validité, oui, d'un moyen contraceptif que vous aviez envie de proposer aux femmes, y compris des milieux populaires.
Oui, exact.
Alors, cette enquête, elle t'a amené à quoi?
Ah, elle a amené à des réflexions très intéressantes sur la fameuse ambiguïté de la femme face à sa vie reproductive, hein, sur les questions que posent la sexualité et la reproduction. Elle a surtout amené à faire un travail de contact, d'éducation très profonde avec elle, puisque c'était pas seulement leur proposer le diaphragme, mais c'était d'accompagner tout ce processus avec des discussions, avec de l'auto-examen gynécologique, enfin une forme de soins, hein, et d'écoute que l'on aimerait bien pouvoir repasser après pour les institutions.
Mais bon, cette enquête, elle ne s'est pas terminée en y mettant un bouquin avec 100 pages, etc. Je crois que vous en avez voulu donner une illustration concrète de ce que tu avais réuni, de toute l'information que tu avais réunie, des contacts que tu avais eus, ça a pris une forme un peu particulière.
Oui, tout à fait. On a décidé d'en faire un film en vidéo. Et un film qui ne soit pas, cette fois-ci, justement, un reportage ou un simple rapport d'enquête, mais qui soit une histoire, c'est-à-dire c'est une fiction où on met en scène une femme qui a dans les 25 ans et qui a un enfant et qui est mariée, qui est donc un peu le profil commun des personnes qui ont participé à mon enquête. Et on en fait l'histoire, une histoire qui s'est déroulée assez fréquemment dans l'enquête, qu'on trouvait justement très très important de pouvoir discuter. C'est une femme qui prend la pilule, qui n'a pas envie de se stériliser, bien que tout le quartier l'y pousse, sa mère l'y pousse, sa belle-sœur l'y pousse,
puisque la stérilisation est le premier moyen contraceptif dans le nord-est brésilien, donc irréversible. Elle a la pilule, elle ne la supporte pas, comme beaucoup de femmes au Brésil, qui ont des effets secondaires assez importants avec la pilule. Elle, par hasard, va s'intéresser aux actions de quartier, à ce qui se passe dans le quartier, et elle voit qu'il y a une information sur la santé des femmes, et elle y va. Et elle commence à participer à tout un processus de discussion sur le corps, sur la sexualité, sur les moyens de contraception, sur les histoires de femmes. Et alors, à ce moment-là, elle se recharge d'une volonté de changement, hein, d'une énergie de vouloir faire d'autres choses, de vouloir peut-être sortir de la maison et de voir dans le monde ce qui se passe et de voir qui sait, pourquoi pas travailler, bien qu'elle n'ait pas de formation. Enfin, il y a des tas de fantasies, de rêves qui se passent. Mm-hmm. Hein. Et dans ce processus-là, où elle se sent plus forte, où elle se sent plus belle, et c'est vraiment ce qui se passe en général quand on travaille avec les femmes et qu'elles suivent ce processus de discussion,
de conscience, hein.
Ouais, de conscience. Il se passe que de l'autre côté, son mari commence à devenir inquiet de cette transformation. Hein. Il se sent menacé et il y aura des conflits. Et c'est lors de ces conflits assez durs, où on peut peut-être parler de séparation, où alors là, il y a le fantasme de la séparation qui apparaît, où il peut y avoir des bavures au niveau de la contraception. Hein. Et c'est un peu ça qu'on essaye de montrer. Et bon, c'était en effet, en dehors du sujet, c'est une expérience très, très chouette, puisqu'on a fait ça avec les femmes du quartier, donc avec les femmes qui
participent. Donc pas du tout des comédiens professionnels, c'est-à-dire mais des gens que vous connaissiez.
Le couple étoile est professionnel, parce qu'il y avait quand même des scènes assez osées, hein, des scènes d'intimité qu'on aurait difficilement faites avec les femmes des quartiers. Et puis parce qu'on voulait aussi que ça puisse passer le mieux possible. Hein. On avait quand même, on espère avoir une certaine qualité dans ce petit feuilleton. Hein. Mais elles ont participé pour faire les seconds rôles, elles ont participé pour le maquillage, elles ont participé pour plein de choses, pour produire l'alimentation pour l'équipe. Elles ont participé à faire des... Comment on dit ici, le script, les continuistes, on dit. Non,
pour les scripts, ici.
Voilà. Et c'était vraiment quelque chose qui, je pense, a beaucoup plu à tout le monde. Hein, a pris le monde du travail, en fait, hein, aussi beaucoup. Une expérience de travail en dehors du travail à la maison ou du travail ménager fait ailleurs.
Donc l'idée, c'est de montrer ce film ensuite un petit peu partout, puis qu'il soit à nouveau matière à discussion.
Qu'il soit matière à discussion, parce qu'on laisse une interrogation. On ne sait pas si... elle va devenir enceinte ou pas, notre héroïne. Mmh. Et on va poser alors la question de qu'est-ce que c'est et comment est-ce que les gens réagissent. Est-ce qu'ils voudraient qu'elle ait fait une faute contraceptive, pourquoi, et etc., etc.
Vous êtes toujours sur Radio Zone, Rome Ménage 93.8 et vous entendez une interview de Gigi, membre du SOS Corpo, un groupe féministe qui travaille à Recife au Brésil.
Parce que tu me racontais comme ça, en se baladant sur les montagnes suisses, tu disais que, bon, parfois, les institutions continuent à vous demander, donc on ne vous bloque pas toujours systématiquement, mais c'est vous qui commencez à trouver que les demandes des institutions sont plus conformes à ce que vous avez envie de faire. Hein. Par exemple, tu me racontais l'histoire sur l'éducation sexuelle.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a des demandes, hein, on a des demandes, et puis comme le SOS, est devenu un lieu de référence, en tout cas au Pernambouc, presque nationalement, sur la question de la femme, on est toujours sollicité. Alors on est sollicité justement au niveau des institutions, il y avait les institutions de santé, comme je l'ai dit, et puis l'institution de l'éducation, qui voulait mettre au point un programme d'éducation sexuelle et voulait être pilote dans la matière, puisque au Brésil, ça n'existe pas. Hein. Et puis, c'est clair qu'avec...
Donc, jamais il y a eu d'éducation sexuelle dans les écoles jusqu'à ce jour.
Non, non, jamais. Jamais. Impossible. Mais avec le problème du sida, qui se propage au Brésil d'une façon assez alarmante, et puis avec le problème, ça, depuis assez longtemps, des grossesses dans l'adolescence, il y a une certaine volonté vouloir ouvrir le débat dans les institutions et dans les écoles. Mais simplement, c'est comme partout, ils aimeraient des solutions rapides, toutes faites et assénées comme ça de haut en bas sur les classes et sur les professeurs qui, eux, sont absolument paniqués par la question. Je veux dire, c'est en effet la sexualité, on sait que c'est pas simple. Donc il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir monter ensemble un programme, ou il faut monter ensemble une discussion, savoir qu'est-ce que ce serait. Quelle serait l'orientation de cette éducation sexuelle en faisant, en appointant les dangers qu'il pourrait y avoir à une normatisation, à une répression et tout ça. Alors, on s'embarque comme ça à des discussions qui ont l'air plein d'avenir, et puis en fait, on voit au bout d'un moment et tout ça. En de travail bénévole, je veux dire, parce que nous, on est professionnels, mais on est professionnels pour travailler en direct avec la population. D'un coup, on est sollicité par l'institution qui nous promet de nous rémunérer et qui ne nous rémunérera pas, parce que les budgets ne sortent pas, ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, on est bloqué, on a l'impression de s'être fait utiliser et de voir que de toute façon, il faut que ça soit toujours beaucoup plus rapide, beaucoup plus rentable, beaucoup plus...
Et qui ne correspond pas à ce que vous auriez envie de proposer.
Alors,
donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Alors, dans ces cas-là, on rompt les conversations. Et puis, on essaye d'en parler en dehors. Je veux dire, on en parle à la presse. Pas dans une position de refus absolu de dialogue avec les institutions, mais de dire attention, c'est quelque chose qu'il faut amplement discuter et qu'il faut mettre au point avec les propres participants du programme, qui sont les parents, qui sont les professeurs,
parce
et
que
aussi d'avoir les enfants.
Vous vous dites que ça n'a pas d'intérêt de mettre n'importe quoi rapidement, et puis quitte à ce que ce soit transformé, mieux vaut attendre, puisque de toute façon il n'y a rien eu jusqu'à maintenant, et de proposer ensuite quelque chose de vraiment bien.
Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment notre politique.
Dans votre travail dans les quartiers, qui était quand même justement la particularité du travail du SOS Corp, qui vous avez envie de travailler avec les femmes des quartiers populaires, est-ce que ça vous continuez toujours dans votre travail? Est-ce que vous avez encore le temps de le faire à côté de votre travail dans les institutions, les recherches, les films et tout ça, qui est déjà énorme?
Oui, c'est vrai, on a eu un certain recul dans le travail direct avec les femmes dans les quartiers, parce qu'on a été extrêmement sollicité ailleurs, et puis maintenant, on a pris peut-être un autre caractère, dans le sens où on est sollicité par des femmes qui travaillent avec des femmes dans les quartiers, c'est-à-dire on est un peu intermédiaire. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait des groupes plutôt... qui mélangent ce qu'on appelle les leaders de quartier, des femmes de quartier qui, elles, ont déjà une action avec d'autres, et avec des travailleurs sociaux de toutes sortes d'institutions qui ont envie de saisir, de se perfectionner ou de saisir un peu quelle est la problématique de la femme.
Votre idée, c'est que les femmes qui viennent à ce genre de séminaire-là, ensuite, elles, prennent la responsabilité d'enclencher un projet dans leur quartier, par
exemple ? Tout à fait. Elles sont des multiplicatrices.
Je crois qu'effectivement, dans un des quartiers de Recife, au Morro da Conceição, c'est une chose qui est très à l'ordre du jour, non ?
Ah oui, tout à fait. Je veux dire que ça reprend aussi les expériences qu'on a faites de rencontres, les rencontres nationales, etc., où tout d'un coup, il y a une grande dynamique, où tout d'un coup, il y a 800 femmes qui se voient et qui font des tas d'expériences ensemble, des tas d'ateliers ensemble, des ateliers de corps, des ateliers de théâtre.